Bonjour à toutes et à tous, Boker Tov. L'Union européenne prépare des sanctions contre Israël pour protester contre la construction envisagée de milliers de logements dans la zone E1 en Judée-Samarie.
Washington adresse une mise en garde ferme à ses alliés et concurrents à propos de la pression économique sur l'Iran. Soit vous êtes avec nous, soit contre nous.
Le Hamas utilise l'hôpital Nasser de Khan Younes dans la bande de Gaza pour torturer sa population.
Et enfin, la députée française Caroline Yadan interpelle plusieurs grandes marques qui travaillent avec des influenceurs impliqués dans la vague de haine antisémite visant Gisèle Journeau. L'Union européenne prépare un train de sanctions contre Israël suite à la décision de lancer un appel d'offres pour la construction de milliers de logements dans la zone E1, en Judée-Samarie.
Et selon la chaîne israélienne 13, les États-Unis ne s'opposeraient pas à la manœuvre européenne. Le projet de Bruxelles serait notamment d'étiqueter tous les produits en provenance d'Israël et pas seulement ceux fabriqués en Judée-Samarie. L'Union européenne entend ainsi réduire les collaborations universitaires, sécuritaires et même diplomatiques avec Israël. La France, l'Italie, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont entre autres condamné la décision du ministère israélien du logement de lancer un appel d'offres concernant la construction de 1234 unités de logement dans la zone E1 qui relie Jérusalem à Maale Adomim. On est revenu sur ce sujet épineux dès 7h30 avec notre invité Stéphane Vanisch, chercheur à l'Université de Tel Aviv. Retrouvez cet entretien, comme tous ceux de cette matinale, sur notre site radiojudaica.be et n'hésitez pas surtout à rejoindre notre groupe WhatsApp en cliquant sur le lien que vous trouverez sur notre site.
Israël a éliminé ce matin un terroriste palestinien qui tentait de poignarder un soldat israélien à Jenin, dans le nord de la Judée-Samarie, c'est ce qu'indique l'armée. Mais aucun autre soldat n'a été blessé lors de cette attaque.
Washington adresse une mise en garde ferme à ses alliés concurrents à propos de la pression économique sur l'Iran. Soit vous êtes avec nous, soit contre nous.
Sur CNBC, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a prévenu les alliés de Washington qu'ils devraient choisir leur camp. La Chine est particulièrement visée. Pékin achète, selon lui, la moitié de son énergie dans les pays du Golfe et une grande partie en Iran. Le secrétaire au Trésor doit présenter lundi les détails de cette campagne de pression maximale annoncée par Donald Trump. Son objectif, priver Téhéran des moyens de financer des forces et des alliés régionaux tout en évitant une reprise massive des bombardements. Scott Bessent affirme même vouloir provoquer l'effondrement du régime iranien. Mais cette nouvelle offensive économique éloigne la perspective d'un retour rapide à la normale dans le détroit d'Ormuz. Conséquence immédiate, les cours du pétrole sont repartis à la hausse. C'est en partie pour ça qu'on vous pose la question pour lundi. Le boycott économique contre l'Iran voulu par les États-Unis sera-t-il efficace? Et on sera avec Ori Sahar, spécialiste de l'Iran, pour répondre à cette question du jour lundi matin. Les États-Unis s'apprêtent à imposer de nouvelles sanctions au Hezbollah libanais.
Notamment en raison de ses liens avec l'Iran et les gardiens de la révolution, Washington va de nouveau classer le Hezbollah dans sa liste des organisations terroristes mondiales pour ses services rendus au régime iranien sous le commandement de la force Quds des gardiens de la révolution. Selon le communiqué du Trésor américain, un haut responsable en poste à Washington a déclaré que cette nouvelle désignation vise à démontrer que le Hezbollah agit pour le compte du gouvernement iranien et à mettre à jour aussi les informations publiques afin de lier cette désignation aux actions du Hezbollah menées pour le compte des gardiens de la révolution islamique. Ce même haut fonctionnaire américain affirme par ailleurs que les mesures qui seront prises contre le Hezbollah sont distinctes des autres actions que les États-Unis envisagent de mener contre l'Iran. Et dans le même temps, Naïm Qassem, le secrétaire général du Hezbollah, voulait donner du poids à son discours en s'appuyant sur un journaliste du Yediot Ahronot. Seul problème, personne ne l'a jamais trouvé. Le chef du Hezbollah a donc cité un intellectuel israélien qui n'existe pas. L'administration Trump devrait empêcher pour la deuxième année consécutive le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas d'entrer aux États-Unis pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York au mois de septembre prochain.
C'est ce qu'ont indiqué des responsables américains cités par des médias israéliens. Washington avait déjà refusé l'an dernier des visas à Mahmoud Abbas et à environ 80 autres responsables de l'autorité palestinienne. Les États-Unis avaient alors reproché à cette dernière de mener des démarches compromettant selon eux les perspectives de paix, notamment en cherchant à obtenir une reconnaissance internationale d'un État palestinien. La Turquie affirme qu'elle ne tombera pas, je cite, dans le piège tendu par Israël.
Nous avons suffisamment d'expérience pour ne pas tomber dans le piège tendu par le Premier ministre Netanyahou qui vise à saper la paix et la stabilité dans notre région, a déclaré le directeur de la communication de la présidence turque. Ankara persiste à démentir toute présence de ses représentants militaires sur le sol syrien. Or, le ministre syrien des Affaires étrangères, Assad al-Shabaini, a reconnu hier que des officiers militaires turcs s'étaient récemment rendus sur la base aérienne d'Abu al-Dour, frappée par Israël, tout en niant tout projet de déploiement militaire de la Turquie dans son pays. La Turquie n'est pas l'Iran, elle appartient à l'OTAN, entretient des relations étroites avec les États-Unis et affirme ne pas rechercher la confrontation. Mais Recep Tayyip Erdogan soutient ouvertement le Hamas et multiplie les déclarations hostiles à Israël. Jérusalem refuse donc de faire dépendre la sécurité du Golan et sa liberté d'action des intentions actuelles ou futures d'Ankara. On est revenu sur cette question à 8h45 avec Rémi Daniel dans la question du jour. Vous pouvez aussi réécouter cet entretien en téléchargeant l'application Radio Judaïka sur votre téléphone.
Et les Kurdes de Syrie affirment que la Turquie occupe des zones du nord du pays.
Et selon des sources au sein des milices kurdes interrogées par la chaîne israélienne Khan, Ankara prévoit même de s'emparer de zones proches de la frontière avec l'Irak à l'est. Ces mêmes sources affirment que l'implantation turque n'est pas un phénomène nouveau. Selon des sources au sein d'organisations kurdes de défense des droits humains, dans le nord du pays, la présence militaire turque dans ces territoires remonte à l'année 2016. Ils ne se soucient guère du peuple syrien, ont-elles déclaré. Toujours selon des sources kurdes, Ankara contrôlerait même les services de renseignement syriens et qu'elle étend aussi son influence grâce à l'aide de factions syriennes intégrées à la nouvelle armée syrienne du président Ahmad al-Shaab.
Et la Turquie condamne aussi les frappes israéliennes dans la bande de Gaza.
Les pays médiateurs soulignent que l'intensification des attaques israéliennes compromet les efforts régionaux et internationaux à un moment critique, alors que des efforts intensifs sont déployés pour mettre en œuvre le plan global visant à mettre fin au conflit à Gaza, notamment la rencontre entre le Conseil de la paix et les responsables israéliens, et que des mesures constructives sont prises dans le processus de négociation, déclarent à la fois Ankara, Doha et Le Caire dans un communiqué conjoint. Les bureaux de la diplomatie turque, qatari et égyptien appellent ainsi la communauté internationale et le Conseil de la paix à prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect du cessez-le-feu et empêcher toute nouvelle escalade. Hier, Tsahal a mené un raid contre un poste de police du Hamas à Gaza où se trouvait un terroriste impliqué dans les massacres du 7 octobre 2023. Ces critiques mutuelles entre la Turquie et Israël ne vont sans doute pas cesser de s'étendre.
Le Hamas utilise l'hôpital Nasser de Khan Younes pour torturer sa population.
C'est ce que révèle l'armée israélienne dans un communiqué. Dans une déclaration conjointe, l'armée et les services de renseignement intérieur affirment que le Hamas intensifie l'activité de ses appareils de sécurité et tente d'imposer son règne par l'intimidation, les interrogatoires et la torture de ses habitants. Et en raison de l'érosion du soutien des Gazaouis pour l'organisation terroriste palestinienne, l'hôpital Nasser servirait ainsi de lieu d'interrogatoire plus que musclé et de torture d'éventuels opposants ou collaborateurs avec Israël. Des interrogatoires menés par les services de sécurité intérieure et de renseignement militaire du Hamas ont lieu dans le bâtiment Yassine, au deuxième étage des consultations externes de l'hôpital. Par ailleurs, le Hamas instrumentalise l'hôpital comme centre de contrôle sans lien avec sa mission médicale à des fins d'interrogatoire, de torture et d'extorsion, indique le communiqué de l'armée israélienne. Des interrogatoires supplémentaires sont actuellement menés dans un bâtiment qui servait autrefois de bureau à l'hôpital, puis de cafétéria, puis de lieu de culte et qui sert aujourd'hui de centre d'interrogatoire du Hamas, indique Tsahal et le Shin Bet, qui indique que l'hôpital Nasser sert encore aujourd'hui d'infrastructure militaire majeure pour le Hamas. Et la Cour suprême israélienne a annulé à l'unanimité la décision du gouvernement de fermer Galé Tsahal, la radio de l'armée.
Pour les trois juges, le projet ne répondait pas seulement à une réflexion sur la place d'un média civil au sein de Tsahal, mais visait surtout à intervenir dans son contenu éditorial. Le juge Yehiel Kasher a estimé qu'un pouvoir ne pouvait pas décider, je cite, de couper le micro d'un média simplement parce que ses propos lui déplaisent. Une telle attitude est selon lui manifestement antidémocratique. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a vivement critiqué cette décision de justice. Il affirme qu'une radio civile diffusant des contenus politiques n'a pas sa place au sein de l'armée. Il promet de remettre le dossier sur la table après les élections. Le ministre des Communications, Shlomo Karie, est allé plus loin en appelant le gouvernement à ne pas respecter le jugement de la Cour suprême. Les organisations de journalistes ont au contraire salué une victoire pour la liberté de la presse. Le débat sur Galé Tsahal est loin d'être terminé.
La députée Caroline Yadan interpelle plusieurs grandes marques qui travaillent avec des influenceurs comme l'ENA Situation, impliquée dans la vague de haine antisémite visant Gisèle Jourdan.
La députée française a donc écrit à Dior, Adidas, L'Oréal, Sephora, Etam ou encore Danone. On ne peut revendiquer des valeurs d'inclusion et détourner le regard lorsque l'antisémitisme frappe, leur écrit-elle, appelant également les marques à prendre leurs responsabilités. Une campagne de harcèlement antisémite sur les réseaux contre Gisèle Jourdan a suivi l'appel au boycott lancé par l'eurodéputée Rima Hassan la semaine dernière. Caroline Yadan dénonce l'attitude de plusieurs influenceurs, dont la célèbre Léna Mafouf, dont le compte Léna Situation a plus de 4,9 millions d'abonnés. L'influenceuse a liké la publication de Rima Hassan avant de se désabonner des comptes de Gisèle Jourdan et de son agence, puis d'effacer les photos où elles apparaissaient ensemble alors qu'elles étaient amies depuis 15 ans. D'autres influenceurs ont fait de même. Lorsqu'on dispose d'une audience de près de 5 millions de personnes, de tels gestes ne sont pas anodin, estime Caroline Yadan, pour qui l'influence implique également une responsabilité. Caroline Yadan qui sera notre invitée lundi matin à
8h15. Devant l'ambassade d'Israël à Washington DC, des manifestants ont aspergé le trottoir de faux sang et installé des tombes factices drapées de drapeaux palestiniens.
Ils reprennent les clichés classiques de la calomnie du sang, longtemps utilisée pour diaboliser les Juifs et inciter à la violence antisémite. Sur les pancartes des manifestants, on pouvait lire « Les Israéliens sont des tueurs de bébés. Gaza est devenu un cimetière pour enfants. Israël hors des États-Unis. » Le PDG du Combat Antisemitism Movement a dénoncé ces manifestations comme une honte absolue. En novembre dernier, déjà un faux dîner de Friendsgiving avait eu lieu et mettait en scène des dirigeants américains et israéliens en train de manger des membres humains ensanglantés. Et en mars précédent, face à la Maison Blanche, un autre faux dîner mettait en scène des personnages déguisés en Donald Trump, Benjamin Netanyahu et Jeffrey Epstein en train de consommer des organes d'enfants. Aux États-Unis, toujours, la gouverneure de New York appelle le maire Zoran Mamdani à moins se concentrer sur Israël.
Je l'encourage à dire concentrons-nous sur le blocage et la résolution des problèmes au sein de l'administration municipale. C'est là, à mon avis, que devrait se concentrer l'essentiel des efforts plutôt que sur Israël, affirme Cathy Hochul, qui a indiqué vouloir jeter son corps contre l'antisémitisme. La gouverneure de New York avait tout de même fait campagne pour soutenir Zoran Mamdani lors de sa candidature à la mairie. Et en Belgique, les services du gouverneur de la province de Liège ont annoncé ce jeudi après-midi que l'incendie dans les Fagnes est désormais sous contrôle.
Il n'est pas complètement terminé au bout d'une semaine de lutte acharnée des secours, mais il est considéré comme maîtrisé dans la partie ouest. Les opérations se poursuivent à l'est. Les pompiers de Belgique et d'Allemagne, la Croix-Rouge, le SPF Santé publique, tout le monde est sur le pont avec la police et la protection civile et même des citoyens bénévoles. Les pompiers allemands devraient se désengager en fin de journée, preuve que le feu est en train d'être vraiment maîtrisé.
Retour en Israël à présent, les conséquences de la grève des employés de l'autorité aéroportuaire hier continuent de se faire sentir, retard important et passagers qui décollent sans leur bagage.
À l'arrivée, les voyageurs doivent patienter plus d'une heure et demie pour récupérer leurs valises. Plusieurs passagers arrivés durant la nuit ont même été invités à rentrer chez eux sans leurs valises, après avoir été informés qu'il était inutile de continuer à attendre. Elle a même annulé le vol LY8 au départ de New York, alors que les passagers étaient déjà à l'intérieur. La raison, le départ avait été retardé. L'atterrissage en Israël aurait eu lieu après le début de Shabbat. La question qui se pose aujourd'hui, qui va indemniser les passagers pénalisés hier par les retards, les annulations et les problèmes de bagages. Les compagnies aériennes et les organisateurs de voyages constituent leur premier interlocuteur car la loi israélienne leur impose, selon les circonstances, de fournir une assistante, de rembourser un billet ou de proposer un vol de remplacement, sauf si la compagnie démontre que l'annulation résulte directement d'une grève officiellement protégée et qu'elle a pris toutes les mesures possibles pour l'éviter. Et Benjamin Netanyahou a donc décidé de renvoyer du Likoud le responsable de la grève surprise à l'aéroport Ben Gurion hier. Il s'agit du président du syndicat des employés de l'autorité israélienne aéroportuaire, Pinsras Idan, qui a décidé d'ordonner la grève pour perturber le voyage privé de la ministre des Transports, Miri Regev, au Maroc, selon les infos de la 12e chaîne israélienne. Selon des informations recueillies par notre rédaction, celle de Radio Judaïka Bruxelles, Pinsras Idan aurait cherché à faire pression sur le premier ministre israélien pour intégrer la liste Likoud aux prochaines élections. Au lieu de ça, il a donc été renvoyé du parti. Des milliers de personnes ont dû patienter des heures ou rester jusqu'à 3h du matin hier afin de récupérer leurs bagages. Le ministre des Finances a estimé le préjudice causé à l'économie israélienne entre 25 et 30 millions de shekels, soit entre 8 et 10 millions de dollars, sans compter la mauvaise image que cela donne aux touristes venus visiter Israël alors que l'État hébreu essaye désespérément de revenir à son nombre de touristes d'avant-guerre. Benjamin Netanyahu se méfie de la candidature d'Ofer Winter.
Il fera perdre des voix à la droite, soit il prendra des voix à la droite et les transférera vers un gouvernement dirigé par Gadi Eisenkot. « Je ne lui fais pas confiance », aurait déclaré le chef du gouvernement israélien en comité restreint. Pourtant, Ofer Winter n'épargne pas Gadi Eisenkot dans ses critiques, puisqu'il a même affirmé ne pas souhaiter le voir occuper le poste de Premier ministre. En outre, l'ex-chef de l'unité Givati a annoncé qu'il siégerait uniquement dans un gouvernement de droite. Dans les différentes enquêtes d'opinion publiées hier soir et encore ce matin, le nouveau parti d'Ofer Winter ne passerait pas pour l'heure, le seuil d'éligibilité, mais siphonnerait des voix au parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich, l'entraînant lui aussi sous les quatre mandats requis pour être représenté à la Knesset. On vous a tout expliqué à 8h30. Vous pouvez réécouter cette chronique sur notre site radiojudaica.be.
Et un mot de sport pour finir. L'Hapoël Tel Aviv, proche de l'exploit face à l'Atalanta Bergame en barrage de la Conference League, Jonathan.
Et pour cause, les hommes d'Elianiv Berda, bien connus en Belgique, sont allés arracher un match nul 0-0 face au dernier 7e de Serie A en Italie et 8e de finaliste de la dernière Ligue des Champions. Une performance majuscule pour les Rouges qui joueront la qualification chez eux à Tel Aviv au Stan Bloomfield dans une semaine. En revanche, leurs rivaux du Maccabi Tel Aviv ont été battus 2-1 sur la pelouse des Suisses de Lugano. Là aussi, les Jaunes devront l'emporter la semaine prochaine pour espérer se qualifier pour la phase de poule de la Conference League.